RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer.
Vous vous souvenez certainement de cette déclaration d'Emmanuel Macron il y a un peu plus de 4 ans, le 16 mars 2020. Le président de la République annonçait le premier confinement pour lutter contre le Covid. Le lendemain, à midi, la France se figeait jusqu'au 11 mai, sans oublier les autres confinements qui ont suivi à l'automne 2020 et au printemps 2021. Nous voilà donc 4 ans après cette aventure inédite. Les rues se sont vidées, les frontières se sont fermées et nos vies ont été bouleversées. De manière inattendue. À l'époque, on espérait que ce serait temporaire, que nous pourrions bientôt retrouver une certaine normalité. Mais aujourd'hui, impossible d'ignorer l'impact profond et durable que le confinement a eu sur nos vies. Impact sur la santé mentale, notamment des jeunes, mais aussi sur l'éducation, sur le commerce, sur le numérique, sur nos relations. Bref, j'en passe. Une période exceptionnelle qui a changé notre façon de vivre, de travailler, de socialiser, même de penser. Alors je vous propose ce matin, dans Je pense donc j'agis, de chercher à comprendre comment nous avons évolué en tant qu'individus et en tant que société dans ce nouveau paysage post-confinement. Vous êtes les bienvenus en direct avec vos témoignages. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant le confinement? Est-ce que vous avez l'impression que cette crise a changé quelque chose dans votre vie ou dans vos relations avec les autres? Et au niveau de la société également, qu'est-ce que vous avez pu observer? Et qu'importe votre situation, votre témoignage est important. Je l'attends au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et dans la seconde partie de l'émission, on fera vraiment le focus sur le monde professionnel qui a été marqué par l'explosion du télétravail pendant les confinements, bien sûr, et qui a été maintenu dans de nombreuses entreprises. Qu'est-ce que ça a vraiment changé, d'ailleurs, dans le monde? Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? Ce sera à 10h. Mais pour nous accompagner dans cette première partie, je vous présente nos deux invités. Bonjour Ettore Ekki.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct depuis l'Italie. Vous êtes universitaire et directeur du programme de maîtrise et de doctorat en sociologie à Sciences Po Paris. Très rapidement, après le début du premier confinement, vous avez lancé un projet de recherche qui s'intitule « Faire face au Covid-19, distanciation sociale, cohésion et inégalité dans la France de 2020 ». Qu'est-ce qu'une période comme le confinement a représenté pour vous, Ettore Ekki?
C'était un moment, disons, de révolution, une révolution dans la manière de vivre les quotidiens et de changer les rythmes de vie dans des vies qui normalement sont scandées par des régularités, un peu le métro, boulot, dodo, mais il y a bien plus que ça et c'est vraiment exceptionnel. Dans l'histoire d'une société, de voir un changement si, fort, qui arrive tout d'un coup, qui arrive sans être annoncé. Donc, c'est pas un changement progressif, c'est vraiment une rupture improvise.
Ouais, une rupture, ça c'est un terme, on va l'utiliser plusieurs fois j'imagine dans cette émission. Ettore Ekki, je vous présente notre deuxième invité, c'est vous, Antoine Perdoncin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous jusqu'à 10h. Vous êtes sociologue et historien, vous êtes chargé de recherche au CNRS, membre du Centre Nantais de Sociologie. Vous participez actuellement à une vaste enquête collective qui a démarré il y a 4 ans, vraiment pendant le confinement, notamment pour apporter des éléments de réponse à la question que l'on soulève ce matin sur ce que ça a vraiment changé. Enquête à laquelle chacun peut participer, Antoine ?
Oui, tout à fait. Alors c'est une enquête qui a été lancée au cœur du confinement,
On était évidemment toutes et tous confinés, y compris les sociologues. Et voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une enquête pour documenter ce qui était en train de se passer. Et cette enquête, on est en train de la relancer de façon à pouvoir saisir les effets jusqu'à aujourd'hui de cette crise et des crises successives. Et donc, oui, vos auditeurs pourront trouver un lien pour répondre au questionnaire.
Que représente pour un sociologue, pour le sociologue que vous êtes, cette période de crise qu'on a vécue au point de vue changement, au point de vue observation? Qu'est-ce que vous, d'un point de vue professionnel, ça a fait, ça a changé?
Alors, j'aurais le même constat préliminaire que Ettore Recchi. Du point de vue d'un sociologue, c'est vrai que cette crise, ce moment de la crise sanitaire, c'est une rupture extrêmement importante. À l'échelle des générations de l'après-Seconde Guerre mondiale, on a quand même très peu d'événements de cette ampleur qui ont touché à l'échelle de l'ensemble de la planète d'ailleurs, et sur un temps très court, avec un rythme très brutal, l'ensemble d'une population. Ça, c'est la première chose qui est sans doute la plus stupéfiante, c'est que toutes et tous, quel que soit l'endroit où nous vivions, quelle que soit la classe sociale à laquelle nous appartenions, avons été confinés. Mais, et c'est là où les sociologues, je pense, apportent des choses importantes, c'est pas parce que nous avons toutes et tous été confinés que nous avons toutes et tous été confinés de la même façon, oui, et que les conséquences ont été les mêmes.
Il y a avec beaucoup d'inégalités que vous avez pu soulever et relever qu'on évoquera dans cette émission. Et Ettore Recchi parlait de rupture, ça a été un point de rupture d'après vous dans la société française, Anton? On vous entend plus, Anton, je ne sais pas si...
Allô?
Oui, c'est bon.
Oui. Oui, alors, évidemment, c'est une rupture extrêmement importante, on s'en souvient toutes et tous. En même temps, il faut désingulariser ou relativiser un peu cette rupture, dans le sens où c'est le propre des crises, de façon générale, que d'être imprévisible, que d'engendrer des incertitudes, des désordres. Et il est vrai que cette crise-ci a augmenté les interférences, contribué à augmenter beaucoup l'incertitude. On se souvient d'ailleurs de toutes les nombreuses réflexions sur le fameux monde d'après. Pendant la crise, on s'est tous mis à anticiper qu'est-ce qu'il allait se passer, est-ce qu'il y aurait un retour à la normale, etc. Donc le constat est double d'une certaine façon. D'une part, cette crise a sans doute accentué des lignes de faille qui étaient déjà présentes dans la société française, entre les personnes qualifiées, les personnes non qualifiées, les emplois précaires, les emplois stables, les hommes, les femmes, on y reviendra sans doute, sur les inégalités de genre qui se sont très singulièrement accrues. Et en même temps, l'après-crise montre une forme de résilience assez forte et un retour à des formes effectivement normales de fonctionnement, bien loin sans doute des aspirations à ce fameux monde d'après qui aurait pu être tout à fait différent. Mais bon, voilà, on voit que ça n'a pas été le cas.
Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole dans Je pense, donc j'agis pour témoigner, pour nous parler du confinement. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette période? Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose pour vous, personnellement, dans votre vie, dans vos relations avec les autres? Et puis, au niveau de la société également, qu'est-ce que vous avez pu observer? 04 72 38 20 23. Et Ettore Recchi, j'aimerais qu'on revienne sur votre projet de recherche faire face au Covid-19. Très rapidement, vous avez voulu essayer de poser déjà des petites observations du confinement.
Disons que la singularité de cette recherche est qu'elle s'appuyait sur un dispositif déjà existant, ce qui est une enquête longitudinale, c'est-à-dire une enquête permanente, un échantillon représentatif de la population française qui est suivi depuis 2012 par un centre de recherche de Sciences Po qui s'appelle le CDSP. Et c'est pas mon centre de recherche, mon centre s'appelle CRIS, le centre de recherche sur les inégalités sociales, mais on a formé, on s'est unis, on a uni nos forces et on a adapter cette enquête. Donc, les enquêtés qui normalement sont interpellés deux fois par an ont été interpellés tous les 15 jours pendant les premiers confinements et après, avec un peu plus de temps, tous les mois, pour suivre comment ils vivaient, quelle était leur expérience de la période de crise sanitaire. Donc, c'est ce qui est propre de cette enquête et qu'on a des références sur ce que cet échantillon représentatif faisait, pensait avant le Covid. Donc, on a pu enregistrer les changements de manière ponctuelle et systématique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enquêtes qui ont été lancées pendant la crise.
Avec des inégalités, vous l'avez dit tous les deux, ont pu apparaître. Et comme vous l'avez très bien dit, Antoine Perdoncin, chacun a vécu le confinement d'une manière très différente. Certains ont aimé, ont adoré le confinement, d'autres n'ont vraiment pas pu supporter. Ça, c'était vraiment à garder en tête.
Vous parlez de la façon dont les gens ont vécu ce confinement. Oui, alors ça c'est l'un des résultats.
Même la réaction d'ailleurs, la réaction.
Ouais, ouais. C'est l'un des résultats qui nous a tout à fait intéressé de l'enquête que nous avons menée pendant le confinement, puisque on a demandé dans le questionnaire aux gens quels étaient les sentiments qu'ils avaient ressentis. Alors avec les limites d'une enquête évidemment par questionnaire où les gens répondaient devant leur ordinateur, mais tout de même près de 4 enquêtés sur 10 au printemps 2020 ont déclaré avoir vécu cette période avec le sentiment d'être détendu ou en forme. Et même un tiers des personnes qui ont répondu se sont dit heureux. Alors c'est sûr que ce n'est pas rien. Et on avait aussi laissé la possibilité aux gens de nous laisser des commentaires écrits, qui sont évidemment extrêmement précieux pour nous. Et étant donné que beaucoup étaient confinés chez eux et avaient un peu plus de temps libre sans doute, on a recueilli beaucoup de textes de gens qui nous ont décrit les conditions de leur confinement. Et il est vrai, comme vous le disiez, qu'un certain nombre d'entre eux montraient un vrai plaisir du retrait sur soi, de se reconcentrer. Cela étant dit, ces descriptions un peu enchantées du moment, oui, du confinement restent minoritaires. Hein. Oui. Et je terminerai juste en disant que si on a eu donc 4 sur 10 qui ont dit avoir été plutôt en forme, etc., on a quand même 60% des personnes qui ont déclaré de l'inquiétude, 60% du stress, 50% de l'irritation, etc. Voilà, donc globalement, l'expérience a été quand même très inégale et ce sont plutôt les sentiments négatifs qui ont dominé.
Marie, vous êtes la première auditrice à nous rejoindre ce matin. Bonjour.
Oui, bonjour Melchior et bonjour aux invités. Oui, moi, spontanément, il y a eu des bonnes choses, hein, bien sûr, quand on reste à l'intérieur. Mais la première chose qui m'est venue au moment où on annonçait l'émission, c'est une espèce de silence, l'absence de voix. Voilà, l'absence de voix, parce que je vis seule. Mais, et que j'avais la chance d'avoir une nièce proche qui, gentiment, m'a fait toutes mes courses, donc je ne sortais pas. Et puis, les échanges se sont faits beaucoup par SMS, par mail, etc. Et du coup, on avait des nouvelles et on en demandait, mais sans la voix. Au bout, parfois, je me disais, mais ça fait plusieurs heures ou plusieurs jours, c'est arrivé, de n'avoir pas une voix humaine, à part RCF. Alors, j'écoutais RCF, donc merci RCF, c'était des voix humaines. Mais autrement, on restait en une espèce de relation silencieuse avec les autres, sans la voix. Mmh. Et c'est la première chose qui m'est revenue ce matin. C'est donc quelque chose dont j'ai souffert, sans doute. Et c'est resté, remarquez que c'est resté, hein, parce que très souvent, on échange, le fait d'échanger par mail ou par SMS, ça ne donne pas la voix humaine, ça ne donne pas la même tonalité, et je trouve que c'est très dommage. Voilà.
Et ben, merci beaucoup, Marie, pour ce premier témoignage. C'est une bonne entrée en matière. C'est assez vertigineux, je trouve, de se replonger dans ce qu'on a vécu dans cette aventure. Marie qui nous parle d'un souvenir d'un grand silence et torereki avec une relation silencieuse. Je trouve ça extrêmement fort comme expression. Ça, c'est ce que vous avez pu observer également, c'est-à-dire peut-être là aussi des personnes qui aimaient ce silence et d'autres qui n'ont pas pu supporter.
Ben, c'est très percutant. Je reviens un peu sur ce que disait mon collègue Antoine, c'est-à-dire cette idée un peu surprenante, que ce constat qu'on a fait, qu'en fait, en comparant, on a dans ce dispositif, dans cette enquête longitudinale, un index de bien-être subjectif, eh bien, on a comparé cet index pendant les premiers confinements avec l'index de 2016-2019, et on a eu une montée du bien-être subjectif globalement dans la population française. Et c'était, on s'attendait pas ça, car apparemment les monts ont tombé, les monts étaient en miettes, c'était une catastrophe. Mais pour ceux qui n'étaient pas atteints par la maladie, en fait, il y avait un paradoxe. Ils se rendaient compte que la vie était précieuse, qu'ils étaient en vie, qu'ils arrivaient ils se comparaient à ceux qui allaient pire qu'eux. Donc, on appelait ça les paradoxes de l'œil du cyclone, d'être au milieu du cyclone, au milieu de la tempête et être en vie. Donc, il y avait un certain bonheur. Et après, il y a un autre phénomène, la décélération. On vit dans un monde très accéléré. Il y a un sociologue allemand très fameux, connu, qui s'appelle Armut Rosa, qui parle de notre âge comme l'âge de l'accélération. Tout est accéléré. Mmh. On a une existence saturée. Et là, ce qui disait Marie, les silences, les silences peuvent être terribles pour ceux qui vivent dans une condition d'isolement, mais surtout dans les villes, on est saturé des sons. Donc, un peu de silence ne peut pas faire de mal.
Je reviens sur votre expression utilisée, l'œil du cyclone, Anton Perdoncin, c'est-à-dire vraiment quand on est confronté, par exemple, à un événement qui est un peu traumatisant, un peu grave. Général, on va dire, c'est plus facile de relativiser, de se considérer en bonne santé, c'est-à-dire c'est ce qu'on a vécu, enfin c'est ce que beaucoup de personnes ont vécu pendant le confinement, c'est de se dire il y a plus grave ailleurs, on vit une crise, mais moi ça va.
Oui, sans doute, mais de façon très différente selon le milieu et selon le tissu relationnel. Le témoignage de Marie est très intéressant parce que il fait écho à quelque chose que l'on a observé, que Toleré qui vient d'évoquer. Les personnes isolées ont vécu une épreuve tout particulièrement difficile. D'ailleurs, dans notre enquête, celles qui disent avoir subi un confinement solitaire, donc avoir été seules pendant le confinement, sont aussi les personnes qui déclarent avoir le plus perdu de contact parmi leurs proches, et ça, quel que soit l'âge. Et en parallèle, le repli sur soi a aussi été un repli sur un entre-soi, c'est-à-dire sur un petit milieu de relations sociales, ce qui fait que dans l'ensemble, les gens se sont plutôt rapprochés des gens qui leur ressemblent en termes d'âge, en termes de diplôme, en termes de métier, ce qui fait que ça a d'une certaine façon fragilisé un ensemble de relations sociales, notamment les relations sociales les plus faibles,
oui.
Ce qui fait que ces deux processus-là, à la fois le fait qu'il y a eu un repli sur soi et le fait que les relations sociales se soient fragilisées, sauf un noyau très très solide de relations, notamment familiales, fait que les personnes qui ont été les plus touchées par la dégradation de leurs relations sociales sont les jeunes, notamment les jeunes étudiants, étudiantes scolarisées, voilà, et les personnes âgées. Voilà. Mmh. Et ça a eu des effets, pour le coup, à moyen terme et à long terme. Au-delà de cette description parfois un peu enchantée, du moment suspendu, etc., du confinement, on a vu, et notamment quand on est en contact d'étudiants, d'étudiantes, ce qui est notre cas en tant qu'universitaires, des effets psychologiques, notamment à moyen terme et à long terme, sur les jeunes, du fait de cette dégradation extrêmement importante et durable d'un certain nombre de relations sociales.
Bonjour Vinciane.
Bonjour.
Vous êtes en Savoie, merci de nous appeler au 04 72 38 20 23, on vous écoute.
Alors voilà, moi je voulais témoigner qu'à mon cabinet, je suis orthopédagogue et au cabinet, après le confinement, j'ai pu vraiment mesurer un écart, un fossé qui s'était creusé entre les enfants qui avaient eu la chance de vivre un confinement accompagné scolairement et puis ceux qui n'ont pas eu cette chance. Évidemment, il y en a beaucoup pour qui le confinement s'est très très bien passé, et même pour certains, ça a été l'occasion d'approfondir certaines notions qui n'étaient pas très bien comprises, donc ça a été comme un espèce de temps de rattrapage. Mais vraiment, pour d'autres, ça a été très très compliqué, et encore aujourd'hui, on mesure même encore tous ces temps après, que les bases qui n'étaient pas ancrées, ça reste un retard, quoi. Donc il y a vraiment un fossé qui s'est creusé à ce niveau-là. Et alors le second fossé, c'est celui de la proximité. On s'est rendu compte dans les centres sociaux que les gens qui avaient vécu ce confinement dans des espaces de proximité restreinte, il y a quand même eu pas mal d'énervement, voire un peu de violence et de maltraitance. Mmh. Donc à ce niveau-là aussi, il y a eu des écarts. Et ça aussi, on en a le constat dans les établissements scolaires et dans nos cabinets respectifs de praticiens. Voilà.
Eh bien,
c'est mon témoignage.
Merci, c'est un témoignage très précieux, Vinciane. Merci beaucoup pour ce témoignage de terrain en parlant du monde de l'éducation. Alors, on allait y venir de toute façon parce que vous parlez d'un fossé Etor-Ereki. Est-ce que ce fossé, il est représentatif également du fossé qu'il y a eu au sein même de la société en France ?
Oui, je ne veux pas cacher qu'il y a en fait... la pandémie a creusé et amplifié les inégalités déjà existantes. Ceux qui étaient dans des conditions plus précaires ont vu baisser leurs revenus, ça on l'a enregistré, et ceux qui s'en sont sortis mieux, c'est les classes plus aisées. Finalement aussi, la grande invention du confinement, une chose qui reste avec nous, même en ces moments, le télétravail, ça a été un privilège des classes moyennes et classes supérieures. Si vous êtes un ouvrier, vous pouvez pas faire du télétravail. Il faut aller sur les chantiers, il faut aller travailler sur place. Donc, on n'est pas protégé par le télétravail. Et si vous avez des travaux précaires, même s'il y a eu des aides gouvernementales importantes, mais on a vu des baisses de revenus qui ont touché particulièrement ceux qui avaient des emplois précaires.
Oui. Au niveau de l'éducation, Anton Perdoncin, qu'est-ce qu'on a pu observer lors de ce confinement ? Parce que on entendait Vinciane nous dire qu'il y a eu un véritable fossé. C'était très inégal. Je me souviens un peu, ce qu'on soulevait, c'était cet enseignement en distanciel qui a, d'une certaine manière, un peu brisé la relation à la fois entre l'enseignant et l'élève, et par la force des choses avec les parents également.
Oui, le témoignage de Vinciane est très intéressant. Alors, nous, c'est notre collègue Tristan Poulaouec qui a étudié cet aspect-là de l'enquête, donc sur le temps consacré à l'école à la maison pendant le confinement. Donc, ça aussi, ça a été quand même une rupture assez importante, puisque pour beaucoup de parents, il a fallu apprendre à enseigner à ses enfants, ce qui n'a absolument rien d'évident. Mais le plus frappant, c'est que, évidemment, l'implication des parents dans le travail scolaire ne date pas du confinement, mais par contre on sait que c'est très inégalitaire, c'est-à-dire que les parents qui ont le plus de facilité à accompagner leurs enfants dans les apprentissages scolaires sont aussi celles et ceux qui ont le niveau de diplôme, le niveau de scolarité le plus élevé, évidemment une proximité avec l'institution scolaire la plus forte, et donc de ce point de vue-là, l'enseignement à la maison a sans doute renforcé des inégalités qui étaient déjà présente. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des formes de recomposition. Par exemple, entre les mères et les pères, alors on sait, c'est un grand classique de la sociologie de l'éducation, que le suivi scolaire des enfants est une tâche plus fréquemment dévolue aux mères qu'aux pères dans les foyers, et quel que soit le niveau de diplôme d'ailleurs. Et là, ça s'est poursuivi, mais avec une implication des pères un peu plus forte sur cet aspect-là pendant le confinement, et pas forcément parmi les pères les plus diplômés. Ce qui est ça très intéressant, c'est-à-dire que ce ne sont pas les pères les plus diplômés qui ont forcément aidé le plus leurs enfants, même si cette charge quand même a été globalement tenue par les mères, ce qui a été l'un des éléments qui a renforcé des inégalités très fortes entre hommes et femmes pendant le confinement.
Et ça, c'était dans le meilleur des cas, quand en tout cas les parents étaient présents à la maison. Quand il n'y avait qu'un seul parent, par exemple, là aussi, de grosses inégalités que vous avez pu soulever.
Oui, sans doute. Alors là, on n'a pas d'éléments plus précis
Oui.
que cela pour l'instant sur ces questions-là, mais il faudrait sans doute creuser, évidemment, s'il n'y avait qu'un seul parent. Mais vraisemblablement, lorsqu'il n'y avait qu'un seul parent, c'était quand même plus fréquemment la mère, hein, qui s'était arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants et de l'ensemble des tâches domestiques.
Je vous lis une question de, non, un message de Stéphane qui nous dit: le confinement reste pour moi un très bon moment. Nous nous sommes retrouvés avec mon épouse. Nous avons préparé des menus avec nos filles pour faire les courses tous les 10 jours. J'ai repris contact avec mes parents après 10 ans de silence. Je les ai revus à l'été 2020. Ma plus jeune fille a fait leur connaissance. C'est le déconfinement qui a été le plus compliqué. Alors ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais ce témoignage de Stéphane nous emmènera tout à l'heure au témoignage de Martine qu'on accueillera au 04 72 38 20 23. On entendra également Corinne qui a un regard. Elle a repris conscience de la société avec ce confinement. On va marquer une petite pause tout de suite. Vous continuez de nous joindre au 04 72 38 20 23 pour témoigner, nous dire en quoi ce confinement vous a marqué. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Vous pouvez également nous laisser un message dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 9h30, on va écouter de la musique tout de suite. Voici Calogero, On fait comme si, une chanson sortie le 26 mars 2020, en plein confinement. Et dans un instant, on accueillera Martine et Corinne au 04 72 38 20 23.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent, c'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo, on a éteint les chaînes d'infos. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme.
Fait comme si, c'était Calogero pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Antoine Perdoncin, sociologue et historien chargé de recherche au CNRS et membre du Centre Nantais de Sociologie, et Ettore Recchi, vous êtes avec nous depuis l'Italie, universitaire et directeur du programme de maîtrise et de doctorat en sociologie à Sciences Po Paris. On se replonge 4 ans en arrière lors du premier confinement avec vous au 04 72 38 20 23. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Vous êtes à l'antenne.
Oui, merci. Merci d'abord de faire cette émission. Je la trouve très intéressante, surtout 4 ans après. Moi, je suis retraitée. Je vis dans le sud de la France avec mon mari. Donc, on est très conscient qu'on est dans une, on a été dans une situation très privilégiée dans le sens où on est dans une maison avec jardin. Et donc, on a pu apprécier le temps qui a été suspendu. On a retrouvé les bruits des oiseaux qu'on n'avait plus, on n'entendait plus. On a retrouvé un silence qu'on n'avait plus. Et je trouve qu'on a été, pendant cette période, on est revenu à l'essentiel. À l'essentiel, c'est-à-dire à notre nourriture, à pouvoir survivre et ne plus être dans cette société de consommation qui est effrénée ou qui est un véritable tourbillon et qu'on retrouve 4 ans après encore plus que ce qu'on avait vécu, on a vécu avant. Nous, on a été heureux pendant cette période. Alors, c'est peut-être dur de le dire par rapport à d'autres personnes qui l'ont pas été, mais... On a mis en place des choses que on n'aurait jamais faites. C'est-à-dire que on faisait par exemple tous les dimanches midi, on avait décidé avec les voisins, avec une distance imposée, de faire des apéros repas avec une distance à peu près de 2 mètres en mettant des planches et tout. Donc et on ça, a retrouvé. Un certain échange. On a mis en place des visioconférences avec des amis. Donc on avait des liens, mais tout en étant sur du distanciel, bien sûr.
Écoutez, merci beaucoup, Martine, pour votre témoignage ce matin dans Je pense, donc j'agis. Martine, heureuse avec le confinement. Hector et Reiki, qu'est-ce qu'on peut observer au niveau des catégories d'âge? Parce que on a beaucoup parlé de l'impact du confinement sur les jeunes, notamment sur leur santé mentale. Est-ce que on peut dire, ou alors c'est trop général, que les personnes un peu plus âgées ont mieux vécu le confinement que les jeunes?
Ah oui, du point de vue psychologique, c'est vrai. Encore une fois, c'est un peu paradoxal, car en fait, les risques sanitaires de l'épidémie, c'était beaucoup plus fort pour les personnes âgées. Et finalement, parmi les morts, les personnes âgées ont été vraiment majoritaires. Mais je veux mettre l'accent sur un autre aspect, c'est-à-dire qui peut paraître simpliste, mais les vraies victimes du Covid ont été les victimes du Covid. Finalement, on a eu 167 000 morts de Covid en France. Il y a eu des veuves, il y a eu des orphelins. Et si on regarde, en fait, tous les aspects, soit les aspects de bien-être psychologique, soit les aspects de bien-être matériel, finalement, les gens qui ont eu des morts de Covid dans la famille ont subi des effets considérables. Il faut se souvenir aussi de la tragédie de ce type de mort. C'était une mort à l'hôpital, souvent, tout à fait solitaire, tout à fait déconnecté de sa famille, ce qui était tragique pour les mourants et tragique pour les familles aussi, sans des funérailles. Donc, il y a eu un impact qui a été vraiment très concentré parmi ceux qui ont été atteints et finalement ont été les victimes de cette maladie.
Antoine Perdoncin, on entendait Martine nous raconter un peu les manières d'innover pour essayer de garder le lien avec les voisins et la famille, notamment. Est-ce que là aussi, il y a eu une espèce de réinvention des interactions sociales et des liens familiaux pendant le confinement?
Alors, une réinvention, je ne sais pas. Disons que sans doute d'autres vecteurs ont dû être trouvés. C'est vrai qu'on a tous en tête les apéros à distance avec les voisins, les apéros Zoom avec les collègues, les copains ou la famille. Voilà. Alors là aussi, bon, sans doute que d'ailleurs un certain nombre de personnes un peu plus âgées, comme vous le dites, ont dû d'ailleurs découvrir des nouveaux outils numériques. De ce point de vue-là, voilà, les choses sont assez claires. Moi, ce que je trouvais très intéressant dans le témoignage de Martine, c'est aussi le fait qu'elle insistait sur le fait de caractère quand même privilégié, c'est son terme, du fait de vivre dans une maison ou un jardin, avec un jardin. Alors, ça rejoint beaucoup de témoignages qu'on a recueillis dans l'enquête, avec des personnes d'ailleurs qui se disent privilégiées. C'est un terme qui revient assez régulièrement, voilà, par comparaison évidemment avec des milieux plus urbains ou des personnes qui vivaient dans les grands ensembles. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, les personnes qui ont eu des conditions relativement plus favorables parce qu'elles vivaient à la campagne ou avec un jardin ont aussi été celles qui ont été le moins soumises au régime de contrôle
Oui.
extrêmement strict des déplacements, les attestations, les contrôles policiers, etc. On pourra sans doute y revenir parce que c'est un élément aussi très important, hein, de cette expérience, du confinement. Voilà. Et donc, il y a eu aussi, hein, dans le vécu du confinement, la possibilité de s'extraire grâce à des conditions de vie parfois, moins concentrées, de s'extraire aussi, des formes les plus directes de contrôle des déplacements et de contrôle des sociabilités.
On peut en parler, hein, si vous voulez, dès maintenant, Antoine Perdoncin, sans problème, de peut-être des réponses politiques, des adaptations des institutions lors des confinements, avec des mesures gouvernementales qui ont été prises pour atténuer les effets du confinement, qui ont été parfois très très mal vécues, notamment dans les villes, dans les grandes villes.
Oui, tout à fait. Alors là, je vais m'appuyer sur les travaux de deux collègues, Théo Boulakia et Nicolas Mario, qui ont publié très récemment un ouvrage qui est tiré notamment de l'enquête, hein, que l'on a menée pendant le confinement, un
Oui.
ouvrage qui s'appelle L'attestation, et qui s'intéresse à ces questions d'obéissance, hein. Et Nicolas Mario et Théo Boulakia parlent d'une expérience d'obéissance de masse. C'est vrai que c'est le caractère quand même très stupéfiant de ce moment du confinement, qui est que voilà, on a eu une sorte de vidange du dehors, hein, c'est-à-dire le fait que il est devenu impossible, interdit d'aller se promener, même seul en pleine nature, avec des exemples, on les a tous en tête, de la multiplication des règles, hein, qui ont empêcher les gens de se déplacer. Ce qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une sorte de spécificité française, des pays du sud de l'Europe. On pourra y revenir sur cette manière-là de gérer, hein. Dans le nord de l'Europe, par exemple, il n'y a pas eu de confinement aussi strict. Mais contrairement à l'image peut-être un peu d'Épinal, des Français réfractaires. En fait, les Français ont été relativement peu réfractaires, hein. Plutôt obéissants. Globalement, 80% des gens ont respecté les règles, hein, 1 km, 1 heure, l'attestation, mais avec de fortes variations. Et pour le dire très rapidement, les personnes qui ont le moins respecté les règles sont celles qui avaient les conditions matérielles pour ne pas les respecter, et donc qui vivaient plutôt à la campagne, plutôt dans les maisons, dans un environnement dispersé, et plutôt les personnes âgées. Donc celles et ceux qui ont été les plus obéissants ont été plutôt les catégories populaires et les jeunes qui n'avaient pas d'autre choix finalement que de se soumettre au contrôle de police.
Est-aurait requis, d'un point de vue vraiment psychologique, cette obéissance, ce qu'on a dû faire pour obéir, je suis désolé, je mets ce mot entre guillemets, aux mesures gouvernementales, c'est-à-dire remplir une attestation pour aller faire des courses ou pour aller se promener. Est-ce que ça, par exemple, ça a eu un vrai impact?
J'aimerais plutôt comparer la situation française avec la situation comme les faisait un temps, à la situation d'autres pays.
Oui.
Là, j'ai des données un peu spéciales sur les contrôles policiers. Et donc, j'ai un doctorant à moi qui a étudié ça. Il s'appelle Bartholomew Konechny. Et il a trouvé que, par exemple, dans les premiers mois, des confinements, en France, il y a eu 15 millions 500 000 contrôles de police sur les individus dans la rue. Et il y a eu presque 900 000 amendes pour faute contre les règles COVID. Et ça, c'est démesuré comparé, par exemple, aux données italiennes, anglaises et allemandes. Le nombre d'amendes faite en France, c'est 3 fois le nombre d'amendes faites en Italie pour des contraventions aux règles COVID. Donc, disons que la situation française était particulièrement dure dans l'application des règles COVID. Et pourtant, comme le disait Anton, la société a obéi. Il y a des études qui ont étudié à travers Google Maps, les déplacements des gens, et on voit que en France, Les gens sont vraiment plutôt obéis, n'ont pas bougé de la maison, ont respecté globalement les règles, les restrictions des mobilités.
Beaucoup de personnes se sont mises au jogging également pendant le confinement. Ça s'est un peu arrêté après, bizarrement. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour. Bonjour Melchior. Bonjour à vos invités. Bonjour à vos auditeurs, auditrices. En fait, moi, j'ai repris confiance dans la société au moment du Covid et du confinement. Pourquoi ? Parce que je cherche pas à m'isoler. Bien sûr, au contraire, j'ai besoin d'être en contact avec la société. En étant chez moi, j'ai pu écouter la radio et c'est un média. Votre média RCF m'a beaucoup beaucoup aidée parce que j'entendais, j'étais peut-être isolée, mais j'entendais parce que c'est important pour moi plus de voir que d'entendre. J'entendais tous les témoignages de personnes qui vivaient, donc j'étais en communion avec ces gens qui expérimentaient, qui vivaient, qui essayaient de vivre ce Covid.
C'est ce que disait Marie.
Je pense pas être d'une, comment on appelle ça, d'une classe favorisée, quoi. Voilà, je voulais signaler.
Alors, je me permets juste, Corinne, vous avez dit, j'ai repris confiance envers la société. Ça veut dire quoi pour vous? Vous n'aviez plus confiance avant le confinement?
Oui, c'est très émouvant parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui... j'ai vécu des choses un peu difficiles au niveau de la justice. Je peux pas... Comment dire... j'ai fait l'école à la maison, ça n'avait pas été compris. Pourtant, je suis pas d'une classe aisée. Et donc je faisais partie beaucoup... j'étais beaucoup... je perçois un RSA, donc j'avais des activités avec des mouvements pour l'insertion, et me voilà retournée à la maison, et à la maison avec votre média, parce que j'ai pas la télé, moi j'aime pas regarder la télé, mais la radio m'a permis de vraiment être en contact plus que dans les
avec
réunions
la société.
Que je faisais,
voilà,
avec les gens, à les entendre, et je me sentais pas... J'étais unie avec
les gens. Voilà. Merci beaucoup Corinne pour votre témoignage. J'étais unie avec les gens grâce aux médias. Je trouve ça intéressant. Antoine Perdoncin, la place des médias d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle. Je ne sais pas si vous avez pu étudier ça, mais quel rôle ont eu les médias pendant ce confinement? Déjà d'informer, de rassurer, d'accompagner également la population.
Oui, sans doute. Alors là, j'aurais du mal à vous répondre précisément puisque c'est pas un élément qu'on a travaillé plus que cela. Alors pour nous, je vais vous répondre un peu sous la forme d'une boutade, mais pour nous, dans l'enquête, les médias et notamment la presse quotidienne régionale a été d'une très grande importance puisque c'est grâce au relais de notre questionnaire par la presse quotidienne régionale qu'on a pu avoir près de 16 000 personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc ce qui montre sans doute d'ailleurs que les gens ont consulté des sites internet et lu abondamment la presse quotidienne. Ensuite sur les usages des médias, c'est vrai que on entend dans le témoignage, notamment pour les personnes isolées, ça a sans doute été quelque chose de très important, l'importance de la voix, voilà. Mais j'aurais peu de choses de plus à vous dire là-dessus.
Vous, Ettore Reki, d'un point de vue psychologique, est-ce que les médias ont eu... Alors peut-être un rôle à double tranchant, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, mais avec des informations parfois déprimantes, il faut se l'avouer, qu'on recevait chaque jour avec le nombre de décès qui augmentait le nombre de cas également dans certaines régions avec des alertes rouges. Et puis à côté de ça, quand même des médias qui étaient là pour continuer tout simplement d'apporter du divertissement, Ettore.
Ben, ça a été un peu la glorification de l'âge des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont trouvé à un moment finalement, c'était surtout, mais pas que pour les jeunes, en fait. Il y a eu même, c'était les moments des différenciations sociales et générationnelles de l'usage des réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, maintenant, est qualifié par les gens de manière un peu méprisante comme les réseaux sociaux des vieux.
Des boomers, comme on dit.
Et des boomers, exactement, c'est ça le mot que j'ai cherché. C'est justement à ces moments-là qu'il y a eu les déclics. Bah, les gens vont sur TikTok plutôt que sur Facebook. Donc, ça a été important. Ça a été, disons, il y a une espèce de shift, de mouvement vers la vie en réseau plutôt que la vraie vie, qui a été un peu pathologique aussi, hein, faut le dire. Et les gens ont souffert de ça, on l'a déjà dit, il y a eu une fracture générationnelle dans la manière de vivre. Tous les indices montrent que ceux qui ont vraiment souffert psychologiquement, c'est les jeunes. Dans tous les pays, là, on a des données qui sont en résonance entre la France et les autres pays européens.
J'aimerais qu'on accueille rapidement Pascaline au 04 72 38 20 23. Bonjour Pascaline.
Bonjour Melchior.
Je crois que vous vouliez nous parler un peu du regard que vous avez porté sur la société pendant le confinement.
Oui, alors moi je vais complètement en contre-courant parce que pour ma part, j'ai trouvé que cette période a été très bénéfique pour ma famille, dans le sens où mon mari qui travaille énormément, on a enfin pu passer du temps avec lui, avec notre petite qui avait 5 mois, et de voir qu'il puisse avoir du temps avec elle, c'était quelque chose d'important pour moi, et donc sur ce point-là, j'ai trouvé ça très bénéfique.
Oui.
Après, personnellement, c'était le fait de ne pas pouvoir aller à l'église, ça a été quand même un gros point négatif, mais sinon, c'était quelque chose pour moi de positif. Après, de ce que j'ai vu de la société, c'est que les gens se sont étaient beaucoup plus méfiants du coup,
oui.
Mais tellement méfiants que socialement c'était nul quoi. Et les masques ça a perduré et je trouve que certains au contraire en profitaient et ont exagéré le truc pour se cacher derrière. J'ai trouvé ça de la société que depuis les gens sont plus individuels.
Et vous pensez que c'est encore aujourd'hui, 4 ans après, il y a eu des suites à ça?
Les gens sont aujourd'hui moins, mais comme le disait l'intervenant, oui, les réseaux sociaux, ça les a. Mmh. C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus devant leur téléphone que face aux gens, regarder en face d'eux, quoi.
Écoutez, Pascaline, merci beaucoup. C'est riche de vous entendre sur la méfiance, la défiance, et puis finalement, ce qu'il en reste de ce confinement. Ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Antoine Perdoncin, qu'est-ce que ce confinement a changé aujourd'hui, 4 ans après? Est-ce que vous avez pu observer encore des impacts, des conséquences du confinement sur la population, sur la société? On entendait cette notion de méfiance, de défiance également envers le monde politique, à cause ou pas des mesures gouvernementales, des personnes qui se sont un petit peu individualisées, il y a eu un isolement social. Vous, qu'est-ce que vous avez pu regarder, Anton?
Alors, j'espère que vous m'entendez.
Oui.
Convenablement, oui. Moi, je vous entends plus très bien. Bon, mais je crois que j'ai compris votre question. Sur la question de la méfiance, c'est intéressant ce que disait Pascaline. Il se trouve que pendant le confinement, on a parlé de l'obéissance, du fait que c'est une expérience d'obéissance de masse. Si on regarde un peu la façon dont s'est réalisée cette obéissance, il y a eu à la fois évidemment la peur du gendarme, il y a l'ampleur des contrôles qui a été déjà évoquée par Ettore Recchi, mais on a aussi une forme de dimension plus horizontale de cette obéissance, ce qu'explique Nicolas Mario et Théo Boulakia, c'est-à-dire que les règles ont été acceptées à condition que tout le monde les accepte, ce qui est peut-être un truc un peu français d'ailleurs, cette quête de l'égalité, ce qui s'est traduit par des formes de vérification des activités des voisins et une explosion des délations, et notamment des coups de fil au commissariat de police. Il y a eu des témoignages assez saisissants de commissaires de police qui disaient « arrêtez de nous appeler, on n'en peut plus ». Donc de ce point de vue vue-là, c'est vrai que ça a été une expérience un peu étonnante, hein, d'obéissance de masse de cette façon-là. Les effets à long terme de cette affaire sont sans doute plus difficiles à saisir. Les processus d'individualisation, l'usage des réseaux sociaux, tout ça, c'est quand même des processus qui s'inscrivent sans doute dans une durée plus longue, hein, que le seul confinement. Évidemment, parmi les reconfigurations très importantes, mais je sais que vous allez en parler après, il y a le rapport au travail et notamment oui. L'explosion du télétravail, ou plus exactement l'installation de formes de télétravail durable pour des catégories de travailleurs et de travailleuses qui étaient relativement peu enclins et enclines. Voilà, donc ça c'est quelque chose sans doute d'extrêmement important. Ouais.
Donc ça, c'est sur le travail. Et en effet, vous l'avez bien dit, on va en discuter vraiment pendant une heure à partir de 10h avec nos invités et vos témoignages. Ettore Recchi, sur l'impact psychologique, j'aimerais aussi qu'on en discute, notamment sur la santé mentale. Est-ce que ce confinement a un peu mis à mal la santé mentale de la population, et notamment des jeunes? Est-ce que encore aujourd'hui, on ressent des impacts?
Ben, on ressent des impacts, par exemple, dans les performances scolaires. Il y a eu des études, un collègue à moi à Sciences Po qui s'appelle Bastian Betthauser a fait une review analytique et rigoureuse de la littérature dans 15 pays, et dans tous les pays, finalement, on a eu une perte des capacité d'apprentissage de 14% parmi les jeunes. Donc il y a des séquelles, il y a une suite un peu cette génération qui a perdu quelque chose et qui va en déficit d'apprentissage. Et ça il faut les considérer aussi. Mais par contre, j'aimerais signaler une autre chose. On a appris quelque chose collectivement. On a appris un mode de fonctionnement un peu étrange, inattendu, au cas d'une autre pandémie, au cas d'une autre émergence collective. On sait qu'on arrive c'est au-delà de la résilience. Il y a quelque chose. On peut vivre dans des conditions pareilles. On a survécu, et ça fait partie un peu d'un stock des capacités collectives de notre société qu'on connaissait pas. C'était un saut dans les vides, mais là on sait qu'on peut expérimenter les confinements, et c'est praticable. Pas toute la vie, mais on peut le faire.
On arrive à la fin de l'émission. C'est passé très très vite. Il y aurait tant à dire sur ce qu'on a vécu lors des confinements successifs, d'un point de vue d'isolement social, de solitude également. Anton Perdoncin, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Je me souviens notamment au début où il a fallu essayer de trouver des solutions pour aller maintenir le lien, notamment avec les personnes âgées, notamment avec les personnes en situation de grande fragilité. Est-ce que ça a été, pardon de dire ça comme ça, un mal pour un bien? C'est-à-dire, est-ce qu'on a pris conscience que en cas de crise, en cas d'événement un peu traumatisant pour la société, il fallait absolument s'occuper peut-être en priorité des personnes en situation de grande souffrance, de solitude aussi?
Oui, peut-être. Alors, il faut pas oublier quand même que une grande partie des morts, hein, pendant le Covid ont eu lieu, ça a été dit tout à l'heure, à l'hôpital, mais aussi dans les EHPAD, hein, donc voilà, c'est aussi quand même une expérience très traumatique de ce point de vue-là. Et bon, voilà, la façon dont les personnes fragiles sont traitées dans cette société, voilà, notamment à l'hôpital, etc., est sans doute toujours quand même assez problématique. Bon, les autres choses, hein, mais peut-être vous en parlerez tout à l'heure, hein. C'est vrai que cette crise a aussi révélé, hein, un certain nombre de secteurs, d'emplois, de travailleurs, de travailleuses qui généralement étaient dans l'ombre, hein, cette fameuse première ligne, hein, dont on s'est mis à parler, l'ensemble de ces emplois dont beaucoup de gens se sont rendus compte, évidemment les sociologues n'étaient pas surpris, mais beaucoup de gens se sont rendus compte que la société ne tenait pas, en fait, hein, s'il n'y avait pas de soignants, s'il n'y avait pas de gens pour travailler dans les supermarchés, s'il n'y avait pas, voilà, tous ces travailleurs et ces travailleuses qui généralement sont, voilà, fort, fort peu payés et fort peu considérés.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est avec vos mots qu'on va finir cette première partie d'émission. Anton Perdoncin, je rappelle que vous êtes sociologue et historien chargé de recherche au CNRS et membre du Centre Nantais de Sociologie. On mettra donc le lien vers cette vaste enquête sur notre site rcf.fr. N'oubliez pas de me l'envoyer par mail. Comme ça, voilà, les auditeurs pourront répondre à vos quelques questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Tore Reki, merci également pour votre participation. Universitaire et directeur du programme de maîtrise et de doctorat en sociologie à Sciences Po Paris. Dans un instant, on va se connecter en visio. On va parler du télétravail qui a explosé pendant les confinements. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Vous venez témoigner dès maintenant au 04 72 38 20 23. À tout de suite.